1h du matin, tout juste, à Jénine, 18h à New York. Merci d'écouter Radio France Internationale en direct de Paris, où il est pile minuit. L'actualité du monde en 10 minutes sur la radio du monde, c'est avec Matisse Slimani. Bonsoir mon cher Matisse.
Bonsoir mon cher Zéphirin Kouadio pour l'actualité africaine. Dans le reste du monde, la situation en Cisjordanie qui préoccupe gravement l'ONU et la Croix-Rouge. Israël mène dans le territoire une vaste opération militaire depuis un mois. Reportage à Jénine, le camp de réfugiés régulièrement pris pour cible. En Syrie, le grand dialogue national lancé depuis ce lundi, première étape de la transition depuis la chute de Bachar el-Assad. La paix en Ukraine ne peut pas signifier la capitulation de Kiev. Les mots d'Emmanuel Macron depuis la Maison-Blanche. Donald Trump estime, lui, que la guerre pourrait prendre fin d'ici quelques semaines. Et puis, l'une des grandes voix soul américaines s'est éteinte. Roberta Flack est morte à l'âge de 88 ans. La Croix-Rouge se dit profondément inquiète de la situation en Cisjordanie. Israël mène depuis un mois une vaste opération militaire dans le territoire occupé, notamment au nord, dans le camp de réfugiés de Jénine. Après avoir fait rentrer une colonne de chars et déployé des soldats dimanche, l'armée israélienne était encore présente hier soir. Reportage à Jénine, Pierre-Olivier.
Nous avons pu rentrer cet après-midi dans le camp qui est désormais totalement désert. Les 15 000 personnes qui y vivaient ont été contraintes de fuir pour éviter de se retrouver face à l'armée israélienne. Les seuls habitants que nous avons croisés voulaient récupérer des affaires chez eux après être partis à la hâte. Mais beaucoup ont fait demi-tour car des snipers israéliens à l'intérieur du camp sommes ceux qui s'y aventurent de rebrousser chemin. Parmi ceux qui ont fui, nous avons rencontré Solaifa. Elle a trouvé refuge chez son frère qui habite à 200 mètres du camp de Jénine. Et dimanche soir, elle a vu méduser une colonne de chars israéliens passer sous ses fenêtres. Écoutez.
C'est très dur. Hier, les soldats israéliens ont mis des barbelés tout autour du camp pour ne pas que les gens rentrent. Ils sont passés juste là en char et ils ont jeté des grenades assourdissantes. Pourquoi ils font ça? Est-ce qu'ils veulent tous nous tuer? Est-ce qu'ils veulent installer une base militaire? Ils ont détruit les routes. Mais il n'y a pas de résistance. Nous sommes des civils. Il n'y a plus de combattants.
Selon les habitants que nous avons rencontrés, les combattants du Hamas et du djihad islamique auraient déjà quitté la ville et le camp depuis plusieurs jours. Mais l'armée israélienne, elle, a l'air bien décidée à rester dans la ville. Pierre-Olivier Jénine, RFI.
Et pour sa part, le patron de l'ONU se dit gravement préoccupé par la montée des violences en Cisjordanie. Devant le Conseil des droits de l'homme, Antonio Guterres a pointé du doigt les appels à l'annexion des colons israéliens. Au moment où Israël a ordonné l'évacuation de 40 000 Palestiniens à Jénine et dans d'autres camps sans possibilité de retour. Damas salue la levée des sanctions européennes sur des secteurs économiques clés. Bruxelles entend favoriser la reconstruction de la Syrie 2 mois et demi après la chute de Bachar el-Assad. Ce lundi marquait d'ailleurs l'ouverture de la conférence du dialogue national à Damas. 2 jours d'échange au terme desquels les participants devraient formuler des recommandations aux nouvelles autorités. Guilhem Deltey, cette étape fait partie de la transition annoncée par le nouveau pouvoir.
Une transition sans précipitation mais qui se met résolument en place. Voilà l'équation pour les nouvelles autorités syriennes. Aucun calendrier n'a été annoncé, simplement une perspective donnée par le nouveau président par intérim. La transition pourrait prendre 4 ans, a déclaré Ahmed al-Shara, mais ce processus, qui se veut inclusif, doit donner des gages d'avancée. Cette conférence de dialogue national, censée représenter tous les Syriens, de l'intérieur du pays comme de la diaspora, avait été annoncée dès le mois dernier et elle a été préparée ces 2 dernières semaines par un comité qui a organisé des rencontres dans plusieurs provinces du pays. 4000 personnes y ont participé, selon ce comité. Les recommandations qui seront émises par la conférence doivent ensuite servir de base pour la déclaration constitutionnelle, l'identité économique et le plan de réforme des institutions, selon le comité préparatoire. Dans les prochains jours, un nouveau gouvernement devrait être formé. Ce sera la première étape d'un travail continu, poursuit le comité. Mais ce processus inclusif se heurte déjà à un écueil. Les invitations à cette conférence n'ont été n'était envoyé qu'hier, un délai trop court pour que certains Syriens vivant à l'étranger fassent le déplacement.
Et Guilhem Deltay, service international de RFI. Le monde ne nous attend pas. Le nouvel homme fort de l'Allemagne, Friedrich Merz, après la victoire des conservateurs aux législatives, le futur chancelier se donne 2 mois pour former un gouvernement de coalition. Et c'est vers les sociodémocrates du chancelier sortant Olaf Scholz qu'il se tourne. 2 mois pour surmonter les divergences entre les deux formations. L'AfD, parti d'extrême droite, arrivé deuxième, signant le meilleur score de son histoire et d'office exclu d'une coalition, a affirmé Friedrich Merz. La paix en Ukraine ne peut pas signifier la capitulation de Kiev. Message d'Emmanuel Macron reçu à la Maison-Blanche par Donald Trump. La guerre pourrait prendre fin d'ici quelques semaines, a estimé pour sa part le président américain qui dit vouloir éviter une troisième guerre mondiale. Et alors que ce lundi marquait les 3 ans du début du conflit, RFI est en Pologne, premier pays d'accueil des déplacés ukrainiens. Ils sont près de 2 millions dans le pays. Et dans la population polonaise, des voix s'élèvent pour exprimer leur lassitude, tandis que d'autres dénoncent une instrumentalisation des partis populistes. Reportage près de la frontière tchèque, dans la petite ville de Wawa, qui emploie la plus grande proportion de travailleurs ukrainiens. Adrien Sarla.
Dans son agence de traduction, Agnieszka travaille au contact des Ukrainiens au quotidien depuis 3 ans. Et comme une majorité de Polonais, elle ne cache plus sa lassitude face aux réfugiés.
Ils n'ont pas peur de formuler des exigences et ils montrent leur insatisfaction si quelque chose ne va pas dans leur sens. Et au bureau, on les trouve très capricieux avec nous. Selon moi, les allocations familiales devraient être réservées aux gens qui travaillent, que ce soit des Polonais ou des Ukrainiens. Le gouvernement a raison de vouloir arrêter de les donner aux réfugiés sans condition.
Chaque week-end, Johanna se joint à la communauté ukrainienne de Wawa qui confectionne des filets de camouflage pour ses soldats. La jeune Polonaise regrette l'instrumentalisation politique du sentiment anti-ukrainien.
Je trouve ça terrible que de plus en plus de populistes récoltent des voix en s'appuyant sur le rejet des Ukrainiens et des Ukrainiennes. La plupart de ce qui est dit dans la campagne n'a rien à voir avec ce que l'on voit ou expérimente dans nos interactions quotidiennes avec eux. C'est juste un argument de plus pour polariser la société polonaise.
À l'approche des élections présidentielles de mai, tous les principaux candidats proposent d'alléger, voire de suspendre les aides aux Ukrainiens sans emploi. Adrien Sarla, Wawa. RFI.
Et on vient de l'apprendre, le texte présenté par les États-Unis au Conseil de sécurité de l'ONU est adopté. Il demande une paix rapide en Ukraine, mais sans mentionner la souveraineté territoriale du pays. L'ambassadrice des États-Unis salue un accord historique. RFI minuit 7 à Genève. Le patron de l'ONU a tapé du poing sur la table ce lundi en ouverture du Conseil des droits de l'homme. Dans le viseur d'Antonio Guterres, les responsables politiques qui font fi du droit international et des droits humains, sans les nommer, Vladimir Poutine ou encore Donald Trump sont dans toutes les têtes. Le président américain, qui avait par ailleurs menacé de claquer la porte du Conseil des droits de l'homme. Jérémy Lange à Genève.
Entre l'invasion de l'Ukraine, la guerre au Soudan, le massacre du 7 octobre et la guerre qui a suivi, c'est peu dire que l'ambiance ces dernières années n'est pas au triomphalisme au Conseil des droits de l'homme. Mais cette fois encore, l'inquiétude est montée d'un cran, comme l'a exprimé le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres.
One by one, human rights are being suffocated.
Les uns après les autres, les droits humains sont asphyxiés. Par les autocrates, par les va-t-en-guerre qui se moquent du droit international, par les technologies incontrôlables comme l'intelligence artificielle qui suscitent de grands espoirs mais peuvent aussi violer les droits humains en un seul clic.
Aucun dirigeant n'est bien sûr visé nommément, on reste entre diplomates, mais tout le monde a bien en tête les noms de Donald Trump, Vladimir Poutine ou même Elon Musk. Le haut commissaire aux droits de l'homme, Volker Türk, va même encore plus loin dans la mise en garde.
Le consensus général sur les droits de l'homme s'effondre sous le poids des autocrates, des hommes forts et des oligarques. Dans les siècles précédents, les dictateurs pouvaient envoyer un grand nombre de personnes à la mort. Faites attention, ça peut se reproduire.
Be aware, this can happen again.
Un Conseil des droits de l'homme assiégé par des dictateurs accomplis ou en puissance. Les diplomates ont 6 semaines, non pas pour inverser la tendance, ce serait trop court, mais au moins leur porter la contradiction. Jérémy Lance, Genève, RFI.
Et puis l'une des grandes voix soul américaines s'est éteinte. Roberta Flack est décédée à l'âge de 88 ans, paisiblement entourée des siens, indique le communiqué de son agente. La chanteuse afro-américaine a une grande influence sur la soul qu'elle a mêlée avec brio au jazz et au folk.
I came to see him to listen for a while.
Killing Me Softly with His Song de Roberta Flack, qui s'est donc éteinte ce lundi à l'âge de 88 ans.